Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Ronan Folgoas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal Le Parisien et vous avez enquêté sur le travail de l'unité nationale cyber de la gendarmerie qui a coordonné l'opération judiciaire aux Russes qui a abouti entre fin novembre et mi-février à l'interpellation de 64 hommes accusés de corruption de mineurs ou de cyberpédocriminalité. On va revenir sur votre travail. Vous avez donc intégré, c'est assez rare, hein, cette unité dédiée qui est basée à Pontoise mais qui agit dans toute la France. Quelle est précisément la mission de cette unité ?
Ils sont là pour détecter les infractions sexuelles commises sur des mineurs sur le net, sur les réseaux sociaux, sur tout type de plateformes. Et ils sont chargés parfois d'infiltrer des boucles qui regroupent des profils de pédocriminels. Et puis parfois, ils mènent des enquêtes sous pseudonyme.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux et combien de temps ils vous ont accepté avec eux ?
Ça s'est passé sous la forme de deux rendez-vous, ouais. Hein, deux demi-journées qui m'ont permis de rencontrer le capitaine chargé de diriger les opérations de cette cellule. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai rencontré des enquêteurs qui directement sont aux prises sur les réseaux.
Et alors, on va voir comment ils travaillent. Ils se créent de faux profils, c'est ce que vous racontez dans l'enquête qui est publiée dans Le Parisien du 27 février. Ils se créent des faux profils pour essayer de débusquer des prédateurs qui vont tenter de corrompre des mineurs, notamment sur des plateformes de jeux en ligne. Comment est-ce qu'ils travaillent ?
En fait, je m'imaginais au départ la création de profils très complexes avec une légende semblable à celle que les agents secrets peuvent créer avec des photos, etc., qui reconstituerait une histoire familiale. Non, ils ne vont pas aussi loin que ça. C'est-à-dire qu'ils se présentent parfois tout simplement sous la forme d'un prénom, un âge, une localisation géographique. Et puis, ils se lancent comme
ça. Une photo, quand même ? Même pas ? Pas forcément ?
Une photo, mais alors dans ce cas-là, une photo de dos ou alors une image, simplement un picto inspiré de l'univers jeunesse pour évoquer justement ce profil adolescent ou enfantin qu'ils sont censés représenter. Et puisqu'ils ne peuvent pas non plus utiliser l'image d'un mineur
existant
réellement, hein, ouais. Donc il faut faire attention à ça.
Ils pourraient faire appel à de l'IA.
Ils pourraient, ça c'est dans le futur, possiblement, effectivement, mais là ce n'est pas encadré encore juridiquement, donc cette possibilité-là n'existe pas.
Et ensuite ils vont chatter, ils vont discuter.
Et oui, ils se lancent sur des plateformes de discussion où ils savent que les mineurs se retrouvent parce qu'il peut s'agir d'un forum de discussion sur une émission de télévision, par exemple, sur un jeu vidéo. Ça, typiquement, les plateformes de discussion autour de jeux vidéo sont très prisées par les profils pédocriminels parce qu'ils savent que oui, il y a des mineurs qui sont là, qui sont aussi dans l'espoir d'une reconnaissance par le jeu, qui veulent acquérir parfois des jeux eux-mêmes. Donc, il y a parfois des leviers possibles.
Et vous racontez qu'ils font très attention à utiliser les codes, évidemment, des adolescents, y compris les fautes d'orthographe, y compris les abréviations, y compris tous les codes culturels qu'on a à cet âge-là quand on a 12 ou 13 ans.
Exactement. Les enquêteurs m'ont expliqué qu'il y avait, avant de se lancer comme ça sur les réseaux, sous l'apparence d'un profil enfantin, un travail d'acculturation à faire. C'est-à-dire qu'il faut assimiler les codes de la jeunesse, y compris les tics de langage, les emojis, tout ça. Et puis aussi avoir un peu de discussion, hein, puisque s'ils prétendent, par exemple, être passionnés d'équitation ou de gymnastique ou d'un jeu vidéo, eh bien, il faut en connaître évidemment les bases et les fondements. Quoi.
La question, c'est comment est-ce qu'ils parviennent à débusquer les prédateurs. Vous racontez au début de votre enquête, un homme de 43 ans, avant Noël, fait la rencontre d'une ado de 12 ans. Il lui demande des descriptions physiques, la complimente, la discussion progresse sur le registre de la séduction. Il propose une relation sexuelle, puis une rencontre, mais en réalité, Louise, 12 ans, n'existe pas. Ça, c'est le profil que ces enquêteurs recherchent, du prédateur sexuel qui va tenter d'obtenir pas simplement des images, des photos nues ou autres, ou des échanges sur la sexualité, mais une rencontre.
Oui, ça c'est l'infraction, l'une des infractions les plus graves, hein. pas tout à fait la plus grave, mais c'est la proposition sexuelle sur un mineur de 15 ans suivie d'un rendez-vous. C'est-à-dire que dans l'échange écrit qui a lieu donc, entre l'enquêteur qui incarne un enfant et ce profil pédocriminel, eh bien, il y a l'évocation d'une relation sexuelle qui est là dans l'exemple que vous avez donné, eh bien, un scénario sexuel très détaillé qui est proposé, suggéré par l'adulte pédocriminel.
Est-ce que ça déjà c'est une infraction ?
La proposition sexuelle sur mineur est déjà une infraction qui est punie d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Ouais. Et quand cette proposition est suivie d'un rendez-vous, eh bien là, la peine est passible.
Parce qu'il est allé au rendez-vous.
Et oui, parce que là, quand il y a déplacement physique, c'est-à-dire quand l'homme qui suggère, qui propose ce rendez-vous, se déplace effectivement là, en l'occurrence, c'était à la gare de Reims, eh bien là, l'infraction est caractérisée.
Et vous racontez le cas d'Ambrine. Donc le prédateur avait fait 200 km en voiture pour la retrouver. Il avait dans son coffre des sextoys. L'intention suffit à qualifier l'infraction.
L'intention, et puis là, dans l'exemple de ce déplacement de 200 km, il y avait aussi en amont une proposition sexuelle très claire qui était formalisée par écrit.
Mais en fait, cet exercice-là, et c'est ce qu'on découvre dans votre enquête, c'est sur le fil pour les enquêteurs. Il faut qu'ils veillent, pour respecter la procédure judiciaire, à ne pas aller trop loin et à ne pas provoquer l'infraction.
Exactement.
Pour que la procédure tienne.
Exactement, puisque évidemment la somme de leurs échanges sont versés en procédure, et un avocat de la défense aurait très vite fait de détecter une provocation à l'infraction, et donc il faut toujours être dans la retenue, c'est-à-dire ne jamais être dans l'incitation, dans l'excitation aussi du profil, et donc laisser venir finalement la survenue d'infraction.
Il y a aussi des faits de viol par instigation.
Oui. Alors ça, c'est un cas, c'est l'une des infractions les plus graves, sinon la plus grave sur les réseaux. Ça consiste, pour un mis en cause, à provoquer un mineur à violer peut-être son petit frère, peut-être sa petite sœur. Ça, ce sont des cas qui arrivent dans la vraie vie. Ce sont des cas auxquels les enquêteurs sous pseudonyme là sont parfois confrontés. C'est évidemment l'une des infractions les plus graves.
Comment ils font pour supporter tout ça, les enquêteurs ? Est-ce qu'ils vous en ont parlé de ça ? Parce que toute la journée, ils sont aussi, quand ils traquent ce genre de profil, ce genre d'image de pédocriminalité en ligne, ils visionnent des vidéos, ce genre de choses. C'est parce qu'ils traquent aussi la présence de mineurs sur ces vidéos. Parce qu'une fois que les personnes sont interpellées, on va chez eux, on récupère les ordinateurs et puis on découvre qu'ils sont en possession d'images de pédocriminalité.
Bien sûr, parfois des fichiers d'une horreur absolue sont présentés sous leurs yeux comme ça, donc ils doivent subir le choc des images, des vidéos, et puis même il y a une ambiance qui règne dans ces bureaux.
Dans ces bureaux ? Quelle ambiance ?
Oui, c'est-à-dire qu'ils font face, ils sont armés psychologiquement, ouais. Ceux qui sont là, ceux qui restent là sont armés psychologiquement pour tenir. Et il arrive aussi que certains d'entre eux, ou certaines de ces enquêteurs, n'ont pas tenu, n'ont pas résisté, parce que c'était trop lourd, parce que ça renvoyait peut-être à des difficultés aussi qu'eux-mêmes avaient pu rencontrer dans leur parcours, et donc ils ne sont pas restés dans ce genre de service. C'est très particulier. Hein.
Est-ce qu'il y a un profil type parmi ces 64 hommes accusés soit de corruption de mineurs, soit de cyberpédocriminalité ? Parmi ceux qui ont fait l'objet de l'interpellation de ce vaste coup de filet ?
Alors ce qui ressort, et d'après les explications du capitaine Julien Caumont qui m'a reçu et qui dirige ce service, on a affaire à des hommes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de l'idée de ces pédocriminels qui seraient retraités, sexagénaires, septuagénaires. Non, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus diffus dans la société, toutes les couches de la population sont concernées, et on a donc affaire à des hommes de plus en plus jeunes, parce que connectés, parce qu'à l'aise avec les réseaux sociaux, et puis il n'y a pas cet interdit majeur qui existait auparavant, c'est-à-dire qu'avant, ça supposait une dose de courage avec beaucoup de guillemets autour du mot,
bien sûr,
parce que ces pédos devaient aller au contact physique.
Là, ça se passe
sur les réseaux, c'est beaucoup plus simple.
Pourquoi est-ce que ça se passe toujours avec des coups de filet amples, vastes, organisés, c'est-à-dire une ou deux fois par an, on a ce genre d'opération-là ? Pourquoi ça se passe comme ça ?
Alors, ça, c'est une partie seulement de leur activité. Ces coups de filet servent en fait déjà à détecter des profils qui n'étaient pas apparus encore sur les radars de la lutte anti-pédocriminalité. Parfois, ça permet de déclencher d'autres enquêtes. Peut-être qu'en allant perquisitionner chez quelqu'un, ils vont découvrir qu'il est en lien avec d'autres personnes, d'autres profils, beaucoup plus dangereux peut-être. Et puis, c'est une partie, encore une fois, de leurs activités. Ils ont bien d'autres dossiers à gérer en parallèle.
Ces 64 hommes sont des prédateurs ?
Oui, alors, ils ne sont pas encore jugés. Oui. Il faut être prudent aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que des infractions ont, semble-t-il, été caractérisées au cours de cette opération judiciaire. Mais ces hommes ne sont pas encore jugés. Ils ont aussi droit à une défense. Et donc, voilà. Mais certains d'entre eux ont déjà été jugés, ont déjà été condamnés, y compris à des peines de prison fermes.
Après avoir mené cette enquête, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous vous êtes dit, ils sont en danger lorsqu'ils sont sur ces plateformes. Ou alors, au contraire, on a réussi à mettre en place un maillage avec une forme de vigilance pour au moins essayer de contrer les les plus dangereux, ces prédateurs qui sévissent sur ces plateformes. Qu'est-ce que vous êtes dit?
D'un côté, il est très rassurant de savoir que des gendarmes spécialisés, gendarmes et aussi policiers d'ailleurs, dans notre service, mènent ce travail de veille, de vigie. Mais c'est aussi très inquiétant par bien des côtés, puisqu'on se rend compte que les mineurs qui sont livrés toute la journée à une activité sans le contrôle de leurs parents peuvent faire des mauvaises rencontres sur le net. Et donc, il faut leur dire que de la même manière que dans la rue, on ne parle pas forcément à des inconnus, ou alors dans certaines conditions, de la même manière, sur les réseaux, il faut faire très attention sur les conversations qu'on peut avoir et sur la tonalité des échanges.
Merci beaucoup, Ronan Folgoas, d'avoir été notre invité. Je rappelle que cette enquête, elle est à retrouver sur le site, sans doute, du journal Le Parisien.
Bien sûr.
Et c'était une enquête qui a été publiée le 27 février. Merci d'être venu sur le plateau de C'est dans l'air. On retrouve dans un instant nos experts. Nous allons revenir sur la campagne électorale aux États-Unis, il y avait des primaires hier soir dans le Michigan et l'affiche de cette élection présidentielle semble se confirmer. Ce sera vraisemblablement un Biden-Trump. À tout de suite.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.